semaine, Antoine Beauchamp rencontre Jean-Pierre Luminet. Ce soir, dessine-moi l'invisible.
Bonsoir Jean-Pierre Luminet.
Bonsoir.
Nous nous retrouvons dans votre bureau, laboratoire d'astrophysique de Marseille, pour cette deuxième discussion sous les étoiles, entre guillemets, celles que l'on voit et celles que l'on ne voit pas, soit à cause de la pollution lumineuse, soit parce qu'elles sont si denses qu'elles retiennent tout, y compris la lumière, je parle ici des trous noirs. Nous nous sommes quittés hier en parlant de votre enfance, de l'importance qu'ont eu divers moyens de création, la musique, l'écriture. On a parlé d'études enfin, et de la façon que vous aviez eu de bâcler vos concours de grandes écoles d'ingénieurs. Alors pourquoi est-ce que vous avez bâclé ces concours? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi après vous avez repris finalement vos études scientifiques?
Voilà. Mais évidemment, le rêve de mes parents, c'était le symbole de la réussite sociale. C'était par exemple que je devienne polytechnicien, que je devienne un grand ingénieur, école centrale, polytechnique, etc., normalien, ce genre de choses. Voilà. A priori, bon, moi, je voulais bien faire, continuer dans les maths, puisque les maths m'intéressaient beaucoup. Puis je voulais faire surtout plaisir à mes parents. Mais déjà, je ne savais pas trop ce que c'était que le métier de l'ingénieur, mais a priori, je n'avais pas forcément l'intuition que c'est quelque chose qui pourrait me convenir, parce qu'un ingénieur, il travaille dans des équipes avec des directives, des choses comme ça. Et moi, j'ai toujours été vraiment très, très à la fois solitaire et individualiste, ce genre de choses. Enfin bref, j'ai quand même donc fait ces deux années de classe préparatoire. Mais progressivement, je sentais bien que cette forme de bachotage et ce clivage extraordinaire qu'il y a dans les prépas, parce qu'à côté, au lycée, il y avait aussi les prépas littéraires, ouais, les prépas, etc. On n'arrivait pas à communiquer. Moi, j'avais envie plutôt d'aller voir aussi, d'aller parler avec les filles des classes de philosophie, par exemple, de littérature, voilà. Et c'était très difficile parce que c'était, il y avait un clivage total. Déjà, ce clivage qui me poserait tellement de problèmes également par la suite. Et de fait, finalement, j'ai bâclé mes concours. Aux grandes dames, évidemment, de mes parents qui ne comprenaient pas et qui ont été extraordinairement déçus. Je me souviens d'ailleurs, quand je suis revenu de Paris, où j'étais allé présenter également les oraux, que j'avais également bâclés, avec un résultat nul, etc. Ma mère était venue me chercher à Avignon, au train d'Avignon. Elle s'était habillée en noir. Ça m'avait été comme si c'était un deuil. Non, c'est symbolique, moi, ça m'avait incroyablement frappé. Enfin, bref, donc, j'ai bâclé mes concours et je me suis retrouvé en toute liberté, enfin, à la fac de Marseille pour continuer des études de mathématiques pures, pour préparer une maîtrise de mathématiques pures. Bon, j'avais une telle avance qu'en fait, j'avais pas de travail et donc c'est là où j'ai encore plus eu le temps de m'adonner à mes grandes passions. La lecture, je lisais 10 bouquins par mois, tous azimuts, hein. La musique que je vraiment pratiquais de plus en plus, et tout un ensemble de choses, voilà. Tout ça pour dire que donc j'ai préparé donc une maîtrise de mathématiques pure, et puis dans mes lectures tout de même, il y a eu des choses qui ne relevaient pas seulement de l'ordre de la lecture de romans, de la poésie, ce genre de choses, voilà. J'ai découvert 2-3 livres de vulgarisation scientifique. Excellent. Alors, il y en avait un, c'était que j'avais découvert un petit peu plus tôt d'ailleurs, c'était une encyclopédie générale du savoir humain, avec un volume qui était consacré à l'astronomie, et à la fin, il y avait juste une page qui était consacrée à la relativité générale d'Albert Einstein. Très simple, évidemment, hein, voilà. Et je me souviens d'une phrase qui m'avait vraiment marqué. L'encyclopédiste écrivait, dans la théorie d'Einstein, dans la relativité générale, l'espace-temps, il a une forme qui ressemble à un mollusque, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Et ça m'avait stupéfié. Comment on peut dire que ce mollusque, le mollusque de l'espace-temps. Voilà. Et donc, c'est une formulation poétique, mais qui a résonné très fort et qui allait effectivement imprégner toute une approche que j'aurai plus tard pour débusquer, essayer de comprendre qu'est-ce que c'était le mollusque, c'est-à-dire étudier finalement les courbes et les formes de l'espace-temps à travers tous les travaux qui suivraient sur les distorsions de l'espace-temps, à travers les trous noirs, la topologie de l'univers. Là. C'est curieux de voir comment parfois donc des choses qui paraissent anodines, une phrase comme ça, résonne très profondément. Et voilà. Un autre livre donc qui a joué également un rôle très important, c'est un livre d'un radio-astronome français qui s'appelait Jean Edman. Il avait écrit un beau livre. Alors, Edman, il était passionné. Je ferai sa connaissance plus tard, lorsque, effectivement, je deviendrai moi-même jeune chercheur à l'Observatoire de Paris. Donc, je l'ai bien connu et beaucoup apprécié. Il s'était beaucoup occupé d'un l'intelligence extraterrestre. Il était passionné par ça, parce que c'est vrai que le sujet est passionnant, mais aussi, il avait écrit un très beau livre sur la cosmologie, cette science de l'univers dans son ensemble, avec les modèles de Big Bang, dont on parlait à l'époque, même si on n'était pas encore certain que c'était les bons modèles. Il avait écrit une introduction à l'étude des cosmologies, j'avais lu ça avec passion. Et finalement, c'est ça qui m'a fait comprendre que, parmi toutes les activités créatrices qui me fascinaient à cette époque, je savais pas si je deviendrais écrivain, musicien, enfin, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, tout simplement. Et finalement, je me suis dit, mais cet outil mathématique avec lequel je suis plutôt à l'aise et qui me plaît, mais finalement, il peut servir à faire de grandes choses, c'est-à-dire à essayer justement de mettre en forme des idées que l'on a, des idées un peu vagues et floues que l'on a sur quelques-uns des grands mystères de l'univers qui nous entoure. Hein, l'espace, finalement, l'espace entre les étoiles, là où est-ce qu'on peut l'étudier avec ces outils-là. Ouais, les outils de la géométrie différentielle, comme je le comprendrai rapidement. Et tout un ensemble de choses, voilà, les grandes questions métaphysiques. Hein, l'univers a-t-il un début, une fin? L'espace est-il fini, infini? Le temps éternel ou pas? Voilà. Et donc, je crois que ça a été ça le véritable déclencheur. Et finalement, ça veut dire que, en plus de mon parcours purement mathématique à l'Université de Marseille, je me suis inscrit en plus à ce qu'on appelle des certificats d'astronomie. Alors j'allais suivre quelques heures par semaine, place Le Verrier à Marseille, où il y avait l'ancien observatoire historique, quelques cours. Voilà. Et c'est là que j'ai retrouvé Charles Fehrenbach, qui j'avais écrit lorsque j'avais 12 ans, qui ne m'avait pas répondu. Donc il donnait des cours avec d'autres. Et je m'ennuyais un petit peu, c'était absolument charmant. Mais je m'ennuyais un petit peu à ces cours puisqu'ils nous montraient des diapos du soleil, des beautés de l'univers, et il n'y a pas de physique derrière. Mais je sentais quand même que ça m'intéressait de plus en plus l'astrophysique. Et puis je lis, toujours pareil, on fouillait un petit peu partout dans les lectures, je lis un petit opuscule sur des objets bizarres dont on commençait à parler qui s'appelaient des trous noirs. Alors, et j'en parle à la personne qui nous faisait les travaux dirigés. Voilà, j'aimerais bien qu'on fasse ça, qu'on parle un jour de ça. Alors sur le coup, elle était un petit peu interloquée, parce que là, mais comme elle faisait bien son travail, eh bien, le cours d'après, on a commencé à travailler un petit peu sur le rayon de Schwarzschild des trous noirs, et ainsi de suite. Voilà. Alors, à la fin de l'année, donc j'ai passé sans problème tous mes examens de mathématiques, et évidemment également mon certificat d'astronomie. Et je vais voir Charles Fehrenbach. On dit, qu'est-ce que vous voudriez faire? Ben, je voudrais continuer. Et Fehrenbach a été vraiment super. Il m'a dit, compte tenu de votre intérêt pour la physique fondamentale et la théorie, ne restez pas à Marseille, parce que pour l'heure, à Marseille, si vous êtes intéressé à l'optique, d'accord, ce genre de choses, mais pour ce que vous voulez faire, c'est pas la peine. Donc, allez soit à Montpellier, où il y a mon collègue, le professeur Andria, qui vient d'ouvrir un DEA à l'époque, le Master 1 s'appelle un DEA, un DEA de cosmologie, ou alors à Paris. J'ai choisi Montpellier, avant de tenter la grande aventure parisienne. L'une des raisons d'ailleurs, c'est parce que mon meilleur ami d'enfance, lui, faisait des études également à Montpellier de médecine. Voilà, et donc je me suis retrouvé une année à Montpellier à suivre effectivement les cours du professeur Andria, que c'est un homme également exquis, d'une immense culture également, parce que moi j'ai toujours apprécier justement les personnes qui avaient de nombreuses facettes. Voilà. Alors, j'ai pas beaucoup suivi les cours du professeur Andria de fait, puisque l'été qui précédait, j'avais déjà lu son bouquin. Son bouquin de cours. Voilà. Donc, en fait, quand j'allais, je n'allais quasiment pas à ses cours, mais je me rendais dans son labo et je discutais beaucoup avec lui. Et à la fin de l'année, à nouveau, j'ai passé donc effectivement mon DEA sans problème. Et il y a eu aussi la honnêteté de me dire, ne restez pas à Montpellier. Et il a eu la chance extraordinaire, il me dit, je viens d'apprendre qu'à l'Observatoire de Paris, il y a l'un des plus grands spécialistes actuels des trous noirs, qui s'appelle Brandon Carter, qui était un collègue de Stephen Hawking, Roger Penrose, enfin des grands physiciens de l'école de Cambridge, qui vient de prendre la direction d'un petit groupe d'astrophysique relativiste, c'est-à-dire la théorie d'Einstein, la relativité générale, qui avait commencé à me fasciner avec les mollusques d'espace-temps, ce genre de choses, etc. Appliqué donc à l'astrophysique, donc les trous noirs, les étoiles à neutrons, ce genre de choses. Je vais lui téléphoner pour vous recommander auprès de lui. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc il téléphone à Brandon Carter, il lui dit, j'ai un élève ici, qui me semble exceptionnel, enfin, il a plein d'idées, il faut évidemment le guider, etc. Est-ce que vous pouvez l'accueillir? C'est d'accord. Et c'est comme ça, voilà, que je dis, je vais à l'Observatoire de Paris. Tout de suite, on a eu effectivement un contact intéressant, pas seulement sur le plan scientifique, mais sur le plan un petit peu culturel, parce que Carter, il est très disert sur beaucoup de choses. Donc à l'époque, moi j'aimais bien parler aussi bien des œuvres de Shakespeare que de relativité générale ou de trous noirs. Et il me propose un sujet dont je réaliserai qu'il était en fait impossible à traiter à mon niveau. Et lui le savait aussi, mais il l'a fait exprès. Voilà. Donc c'est un sujet portant sur une conjecture qui a été émise au sujet de certaines bizarreries qui apparaissent dans les théories relativistes de la gravitation qu'on appelle des singularités, c'est-à-dire des sortes de nœuds de l'espace-temps où tout devient fini, où la physique s'arrête, etc. Il y avait un grand questionnement qui se posait. Est-ce que ces singularités qui apparaissent dans la théorie, est-ce que ce sont vraiment... Elles apparaissent aussi dans la nature, parce que la théorie décrit la nature, mais pas forcément de façon totale et complète. Et comme les singularité embarrasse le physicien parce que tout s'arrête, la physique devient absurde, on a plutôt tendance à dire on voudrait bien les éliminer, mais il y avait des théorèmes qui venaient juste d'être démontrés par la grande école de Cambridge avec Stephen Hawking, Roger Penrose, qui disaient les singularités semblent inévitables dans les théories de la gravitation classique avant qu'on y mette plus tard de la physique quantique censée les éliminer. J'aurais peut-être l'occasion d'en reparler, mais donc c'était la question qui se posait à cette époque, et donc Brandon Carter m'avait posé, voilà, demander de traiter ce sujet-là. Voilà. Je n'ai pas pu le faire, et je dois dire que 40 ans plus tard, la conjecture n'a toujours pas été résolue. Donc
c'est bien que c'était difficile.
Voilà. Et quand, au bout d'une année, j'ai travaillé un petit peu, je voulais travailler aussi en solitaire, je dis à Brandon Carter, ben évidemment, voilà sur quoi je me suis orienté. Donc je m'étais orienté, j'avais quitté légèrement le sujet, mais j'étais resté toujours sur une question liée aux singularités. Mais j'ai écrit un texte un peu compliqué, là, sur les singularités dans les espaces, autant spatialement, homothétiques, etc. Voilà. Il m'a dit, ben en fait, voilà, c'est ce que j'attendais de toi, voilà, si tu te débrouilles tout seul. C'est comme ça qu'on reconnaît les chercheurs qui ont un potentiel créatif. Voilà, tu as changé de sujet, et c'est bien, et c'est comme ça que j'ai passé ma première thèse. On appelle ça à l'époque les thèses de troisième cycle sur les singularités. J'étais déjà, donc, je commençais à faire un petit peu ma place à l'Observatoire de Paris, dans ce petit groupe d'astrophysique relativiste. Mais je dois dire que ces travaux, à l'époque, très influencés par l'école physico-mathématique anglaise, n'étaient absolument pas compris en France. Et c'est pas avec ce genre de travail, parce que j'avais commencé à publier des articles dans les revues techniques, qui pouvaient me faire rentrer au CNRS. Et c'est là où Brandon Carter, à nouveau, me dit, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai que tu vas pas rentrer au CNRS avec le travail que tu as fait sur les singularités, parce que personne n'y comprend rien. Et comme je sais que tu aimes bien dessiner, parce que j'avais commencé déjà à lui montrer quelques-uns de mes dessins à l'encre de Chine, avec ses perspectives bizarres, etc. Il me dit, est-ce que ça te dirait, tu t'intéresses au trou noir, j'imagine, est-ce que ça te dirait de calculer à quoi ressemblerait un trou noir entouré d'un disque de gaz chaud, situation astrophysique, on ne peut pas observer ça, c'est un truc qui m'a plu beaucoup, parce que le trou noir pour moi, justement, on revenait sur ce questionnement que j'avais déjà eu dans ma jeunesse, le noir, qu'est-ce que ça cache, et est-ce que ça peut se révéler d'une certaine manière? Alors le trou noir, c'est le parangon de l'invisibilité, c'est l'astre que l'on ne voit pas par excellence, donc le défi, c'est génial. On va donner à voir un trou noir, pas directement lui-même, la surface d'un trou noir qu'on appelle un horizon des événements est totalement obscur, c'est une sphère noire, mais dès lors que le trou noir est entouré de matière, étoiles, gaz, etc., sa matière brille et le trou noir va influer d'une manière particulière qui lui est caractéristique sur cette matière-là. Et c'est par donc des calculs initialement tout à fait théoriques, en utilisant les équations de la relativité générale qui vont calculer la propagation des rayons lumineux, mais une structure lumineuse quelconque autour d'un trou noir, ça peut être des étoiles, ça peut être un disque de gaz plat, mince, épais, etc., etc. On calcule comment les rayons lumineux se propagent dans l'espace-temps courbe avec tous ces distorsions, ces déformations d'images, ces mirages, etc. Et donc c'est le travail que j'ai fait en quelques mois seulement, c'était en 1978.
Jean-Pierre Luminet, comment vous avez techniquement réalisé les simulations qui vous ont permis d'aboutir à ce dessin qui est présent d'ailleurs dans votre bureau?
Oui, alors... Les calculs en eux-mêmes n'ont pas pris beaucoup de temps. Il suffit de coucher correctement les équations. Après, il fallait effectivement achever les calculs. On ne pouvait pas les pousser de façon analytique, c'est-à-dire faire tout à la main. Après, il fallait utiliser l'ordinateur. Il faut voir qu'à l'époque, on avait un seul gros ordinateur à l'observatoire de Meudon. C'était un gros IBM à carte perforée. Donc, on faisait des programmes avec des cartes perforées. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit mon programme. Et puis, j'allais régulièrement porter mes paquets de cartes perforées. On avait évidemment le résultat au bout de plusieurs jours. Les résultats de l'ordinateur qui étaient essentiellement, en fait, des tableaux de chiffres et des courbes de niveau, etc., etc. Mais moi, ce que je voulais te dire, c'est vraiment une image la plus réaliste possible, c'est-à-dire l'équivalent d'une photographie virtuelle que un télescope du futur pourrait éventuellement obtenir en observant l'environnement d'un trou noir. Et bien, la seule option pour moi, c'était de faire le résultat final à la main. je me suis dit, ben, ma plaque photographique virtuelle sur laquelle va s'inscrire l'image du trou noir, ben, je vais prendre le négatif, c'est-à-dire je vais prendre une grande feuille de papier transparent, une feuille de papier canson. Alors à l'époque, je dessinais énormément à l'encre de Chine. Hein, je faisais des architectures bizarres, etc. Donc j'étais très à l'aise avec la manipulation de l'encre de Chine. Voilà. Donc j'ai pris ma grande feuille de papier canson, j'ai mis dessus au crayon que je pouvais effacer après les sortes de les courbes de niveau, c'est-à-dire sur l'intensité lumineuse reçue, c'est que les chiffres que me donnaient le résultat de l'ordinateur. J'ai découpé par unité de surface, j'ai mis un nombre à la main, un nombre de points noirs proportionnel au flux lumineux, c'est-à-dire grosso modo au nombre de particules de lumière, de photons qui arrivaient sur la plaque photographique. J'en ai fait à peu près 10 000. J'ai mis 2-3 jours pour faire ça, sur une grande feuille qui faisait à peu près un mètre, quelque chose comme ça. Donc c'était le négatif. Après, une fois que j'ai fait ça, donc j'avais mes milliers de points noirs sur fond transparent blanc, je suis allé au labo de CNRS parce qu'ils en prennent le négatif, et le négatif du négatif est devenu le positif, et les points noirs sont devenus blancs, et le fond blanc est devenu noir. Et ça a donné cette image, qui à l'époque, effectivement, c'était la toute première simulation numérique qui était faite avec les moyens du bord. Brandon Carter a été emballé. Alors, l'image a été publiée pour la première fois dans une revue de vulgarisation, la célèbre revue La Recherche. Alors, à l'époque, j'étais absolument pas connu, bien entendu. Brandon Carter, lui, était connu. La revue La Recherche demande à Brandon Carter d'écrire un article, le premier article de vulgarisation en français sur les trous noirs. On est, je répète, en 1978. Carter, qui n'était pas très à l'aise à la fois avec le français, avec l'écriture, il me dit, ben, tu peux pas le faire avec moi? Je dis, ben oui, d'accord. Et il me dit, ben, c'est une occasion formidable pour montrer ton dessin. Voilà. Et donc, il a été publié pour la première fois, mais sans les explications techniques. Évidemment, en parallèle, après, j'ai rédigé le vrai article scientifique qui a été publié en début 1979 dans la grande revue européenne Astronomie et Astrophysique, avec toutes les explications scientifiques et techniques, et ce dessin-là, cette image, qui à l'époque, évidemment, a beaucoup frappé tous les relativistes, puisque Brandon Carter est allé la présenter à la Royal Society de Londres, Hawking l'a vu, Penrose l'a vu, etc., etc. Après, ça a été montré aux États-Unis, et puis finalement, après, on n'en a plus vraiment parlé. Parce qu'en France, finalement, on n'était vraiment pas beaucoup à travailler sur les trous noirs. Et on avait finalement considéré d'une certaine façon que c'était un petit amusement sans grand intérêt de faire ce calcul-là. Ils ne savaient pas, et même moi à l'époque, je ne savais pas non plus, que 40 ans plus tard, il y aurait la première image télescopique d'un trou noir géant avec des résultats qui ressembleraient à ce que j'avais calculé 40 années auparavant.
Jean-Pierre Luminet, vous me précédez, je voulais faire justement un petit saut dans le temps et comprendre un petit peu quelle était votre réaction quand vous avez vu cette première image produite par l'Event Horizon Telescope au printemps 2019, 40 ans après votre première simulation. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu la similitude entre la simulation que vous aviez faite, le dessin que vous aviez fait patiemment comme un moine à la main, et cette image un peu miraculeuse?
Alors, ma réponse, elle risque d'être un peu longue, parce que c'est toute une histoire. D'abord, simplement, à l'époque où j'avais fait ce calcul, jamais j'imaginais que de mon vivant, on puisse avoir des moyens télescopiques capables de faire ça. Parce qu'il faut rappeler au public que les trous noirs, ce sont des objets effondrés sur eux-mêmes, et donc ce sont des astres de taille très très réduite. Par exemple, un trou noir de type stellaire, parce qu'il va se former avec une masse d'étoiles, il ne mesure que quelques kilomètres en taille. Et le plus proche de nous, il est à des milliers d'années-lumière, donc c'est totalement hors de portée, même un télescope dont on peut rêver dans le futur, hors de portée, etc. Et puis on avait commencé à comprendre également que il pouvait y avoir des trous noirs géants, des trous noirs supermassifs. Au lieu d'avoir la masse d'une étoile, ils avaient des masses de milliards de fois la masse du Soleil. Et comme la formule de Schwarzschild nous dit que la taille d'un trou noir est proportionnelle à sa masse, eh bien, un trou noir de plusieurs milliards de fois la masse du Soleil commence à avoir plusieurs milliards de kilomètres. Donc ça commence à devenir un peu plus gros. Le problème, c'est que le plus proche gros trou noir de cette nature-là, il est au centre de notre galaxie, c'est un peu loin, c'est à 30 000 années-lumière. Et puis il y en a un autre qui est encore plus loin. Il y a 50 millions d'années-lumière, mais comme il est mille fois plus massif, ça fait à peu près sur le ciel à peu près la même taille. C'est comme, un petit peu comme si on voulait regarder une pièce de Monet sur la Lune à l'œil nu. Donc il faut évidemment des moyens télescopiques extraordinaires que je n'imaginais pas du tout à l'époque. Première chose. Deuxième chose, il faut bien voir que dans mon processus vraiment créatif, toujours chercher à inventer des choses nouvelles, explorer des champs nouveaux. Dès que j'ai fait cette image de trou noir, je suis passé à autre chose. Même si un de mes collègues de l'Observatoire de Paris, malheureusement disparu, qui s'appelait Jean-Alain Marc, a repris mon travail avec évidemment des ordinateurs beaucoup plus sophistiqués, a fait des animations que je lui ai demandées pour différentes revues, et puis surtout pour des films que je faisais, pour des documentaires, des animations en couleur, en mouvement, d'une beauté extraordinaire. Mais moi, j'étais passé à autre chose entre-temps. J'étais passé aux crêpes stellaires flambées, puis après à la topologie cosmique. Donc, j'ai pas vraiment suivi, après tout ce développement, à part les travaux de mon ami Jean Lamarck, le reste, je n'ai pas vraiment suivi. D'ailleurs, il s'était pas passé grand-chose, hein, parce qu'il s'est passé 10 ans entre ma première simulation de 1978-79 et les nouvelle première simulation de Jean Lamarck, et puis après d'autres au Japon, 10 ans, 1989, hein, pendant 10 ans, personne n'avait rien fait. Voilà. Donc je ne suivais pas ces travaux. Au point que ce n'est que, assez paradoxalement, qu'en 2014, si ma mémoire est bonne, donc en 2014, hein, je vous dis, moi j'avais travaillé sur la topologie cosmique, je commençais à m'intéresser à la gravitation quantique, j'ai été très loin de l'imagerie des trous noirs, etc. Même si, évidemment, avec tous les ouvrages que j'avais écrits, les articles de vulgarisation sur les trous noirs, j'en avais évidemment reparlé de cette histoire-là, mais je ne suivais pas dans le détail des choses. Et il s'est passé un épisode qui m'a fait réaliser que ça devenait un sujet d'actualité. Enfin, voilà. Et c'est à travers un biais très particulier, avant de découvrir le projet Event Horizon Telescope, c'est le film Interstellar qui sort sur les écrans. Je vous rappelle, c'est un film de science-fiction, un blockbuster hollywoodien, voilà, avec une histoire, un scénario qui vaut ce qu'il vaut, mais donc ça fait intervenir des trous noirs, des plongées dans des trous de verre, toutes ces choses bizarres. Et ils avaient demandé à un véritable astrophysicien, un grand astrophysicien de mes collègues, Kip Thorne, qui d'ailleurs depuis est devenu prix Nobel de physique pour son travail sur les ondes gravitationnelles, d'être le conseiller scientifique du film. Kip Thorne, il avait repris les équations que j'avais écrites, il les avait développées pour tenir compte de phénomènes, certains phénomènes de rotation que j'avais pas pris en compte, etc. Il avait donné ça à une équipe de 200 informaticiens pour sortir des simulations numériques relativement plausibles. C'était plus des vues d'artistes, c'était censé être des vues scientifiques de trous noirs entourés de disques d'accrétion, le travail que j'avais fait près de 40 ans auparavant. Et l'anecdote est la suivante, c'est un jour je reçois un mail, je n'étais pas du tout au courant de l'existence de ce film, hein. Donc il me sort de m'écrire un mail, il me dit: Jean-Pierre, si jamais tu vas au cinéma, que tu vas voir un film qui s'appelle Interstellar, qui va sortir en France, j'imagine, ne t'étonne pas, j'ai été conseiller scientifique du film, ne te fâche pas si tu vois que l'image principale du trou noir réalisé par des simulations, mais qui est présentée évidemment dans les médias américains comme la plus extraordinaire image jamais faite, etc., elle ne correspond pas tout à fait à ce que tu avais fait, parce que j'ai été obligé de négliger l'effet fondamental que tu avais mis dans ton tableau, l'effet de asymétrie de la lumière, le fait qu'il y a un côté du disque de gaz qui brille et un autre qui ne brille pas parce que le disque de gaz tourne à grande vitesse autour du trou noir, et dans la partie qui s'approche, il y a un effet physique qui s'appelle l'effet Doppler, amplifie la lumière, et ça c'est vraiment une caractéristique du trou noir. Eh bien, quand j'ai montré ça au producteur, il n'en a pas voulu, donc on a fait une image très léchée, très lisse, mais il n'y a pas ces phénomènes-là, voilà. Et donc donc c'est là où je suis revenu. Alors après, donc quand le film est sorti, ben les journalistes commençaient à m'interviewer, qu'est-ce que vous pensez d'Interstellar, etc., etc. Je dis, ben, vous voyez, de belles simulations, il manque évidemment cet effet, mais c'est pas de la faute de Kip Thorne, etc., etc. Et puis, comme ça, en me documentant, je me suis aperçu qu'il existait un projet. Depuis plusieurs années, dont je n'avais pas entendu parler. Un projet extraordinaire, qui allait concrétiser le travail que j'avais fait 40 ans auparavant, c'est l'Event Horizon Telescope. C'est-à-dire des radioastronomes, utilisant des techniques qu'on appelle l'interférométrie à longue base. Alors, sous ce terme compliqué, ça cache tout simplement le fait qu'on va prendre des radiotélescopes répartis en différents points de la planète, on va leur faire observer au même moment le même objet, on va combiner les données entre elles pour obtenir une image. Pour avoir en fait l'équivalent, l'interférométrie, ça permet de coupler des instruments entre eux pour avoir l'équivalent d'un instrument ayant la taille du réseau. Et là, avec l'Event Horizon Telescope, ils avaient réussi à mobiliser des radiotélescopes allant de l'Antarctique jusqu'aux îles Hawaï, en passant par le Chili, l'Europe, l'Amérique du Nord, etc. Donc un réseau de taille planétaire. En augmentant la taille du réseau, vous augmentez ce qu'on appelle la résolution du télescope, c'est-à-dire la finesse de vue. Voilà. Et en observant dans un certain domaine de longueur d'onde également, ça joue aussi sur la résolution, ben, ils avaient calculé, ils y avaient travaillé pendant 20 ans. Le projet avait commencé au début des années 2000. Hein, voilà. Ben, ils avaient calculé qu'ils seraient juste en mesure, à partir de 2017, d'avoir la résolution suffisante pour observer deux trous noirs supermassifs, celui qui est au centre de notre galaxie et celui qui est un peu plus loin, Messier 87. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que peut-être cette chose-là, d'il y a 40 ans, pouvait se concrétiser. Je suis rentré en communication, mais pas du tout en collaboration scientifique. Hein. Ils travaillaient depuis longtemps. Il y avait 200 chercheurs qui travaillaient, hein, dans 60 labos différents, etc., etc. Simplement en communication amicale avec les deux responsables scientifiques, l'européen et le responsable américain du réseau. Et qui m'ont dit, enfin, surtout du côté américain, pas trop du côté européen, c'est un petit peu curieux. Ah oui, vos travaux, les travaux de pionniers, évidemment, ce genre de choses, on est très admiratifs, etc. D'autant qu'en fait, je me souviens dans l'article de 1979, je disais à la fin, une fois que j'avais mis mon image, à quoi s'appliquerait un jour cette image? Ben, je disais que je suggérais déjà à l'époque que la cible la plus plausible, la première cible plausible, ce serait le trou noir de la galaxie Messier 87, dont on soupçonnait déjà l'existence, et on savait que c'était un trou noir géant, supermassif, qui n'était pas très actif, et que donc on devrait pouvoir en tirer une image. Donc, ce qui fait que quand l'image est apparue le 10 avril 2019, ben d'abord, je n'ai pas été surpris. Je peux même dire, je n'ai pas été soulagé, parce que je veux dire,
vous nous l'aviez bien dit.
Les équations de la relativité étant correctes, étant correctement utilisées, on ne pouvait pas obtenir. Alors, c'était un petit peu bizarre aussi ce qui s'est passé le 10 avril, parce qu'il y a eu donc ces grandes conférences de presse simultanées dans le monde entier. C'était un très grand événement astronomique, un petit peu comme la découverte des ondes gravitationnelles en 2015. Il se trouve que, à la fois par malchance, mais aussi par chance aussi d'un certain côté, je m'étais déjà engagé depuis longtemps à aller faire un voyage à Samarcande, à cette époque-là. Et vraiment, je ne pouvais pas annuler ce voyage. Et puis en plus, en lui-même, il était passionnant. Hein, Samarcande, c'était la ville où avait vécu le prince Ulugbeg, sur lequel j'avais écrit un roman, etc. Donc, je n'avais pas eu l'occasion de me rendre à Samarcande quand j'avais écrit mon roman. Donc, c'était une occasion rêvée, un truc organisé, formidablement bien. Voilà. Je me suis retrouvé à Tashkent le 10 avril 2019, en train de faire une petite conférence, pas du tout sur les trous noirs, mais sur Ulugbeg, devant l'Académie des sciences de Tashkent, à moitié endormi. Et je savais qu'il y avait la conférence de presse qui allait se faire, donc je suis allé très très vite après à mon hôtel où il y avait la wifi quand même, je me suis connecté en wifi pour écouter au moins la conférence de presse où le directeur de l'Event Horizon Telescope, Shep Dolman, Harvard, etc., a montré, a dévoilé effectivement l'image que j'ai découverte en même temps que les autres. Et bien, j'arrêtais pas de recevoir des messages, des SMS des journalistes qui ne savaient pas que j'étais à Tashkent, au fin fond de l'Ouzbékistan, qui voulaient que j'aille sur le plateau de télévision pour en parler. Et ben non, je suis à l'Ouzbékistan, voilà. Donc ce n'est qu'à mon retour que bon, ça a été voilà, que j'ai eu plus de, comment dire, de possibilités de parler de ce que ça a représenté, de ce que ça a représenté pour moi. Et je disais, et c'est vrai, c'était pas une fausse modestie, je disais que je n'étais pas surpris que le calcul d'il y a 40 ans soit vérifié par des observations astronomiques, mais que c'était une réalisation absolument extraordinaire, et j'étais évidemment très très ému de voir cette concrétisation.
Merci beaucoup Jean-Pierre Luminet, à demain.
Merci à vous, à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Beauchamp avec Jean-Pierre Luminet. À voix nue, réalisation Asia Khalid. Prise de son, Christophe Papon. Attaché de production, Daphné Abgral. Coordination, Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr.